France Inter.
Bonjour à tous. C'est une attaque sans précédent. L'Iran a donc lancé hier soir plus de 200 drones et missiles contre Israël. Israël qui dit avoir déjoué cette attaque iranienne en interceptant 99% des tirs. Israël a bénéficié de soutien des États-Unis, de la Jordanie, du Royaume-Uni et de la France. Paris dit avoir assuré l'autodéfense de ses bases au Proche-Orient. Nous verrons également pourquoi les Israéliens s'attendaient à cette attaque iranienne et quels sont les risques ce matin d'une escalade dans la région. Nous allons en parler avec notre invité, le spécialiste du Proche-Orient, Hasni Abidi, directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous avez compris que ce journal sera donc très largement consacré à cette situation au Proche-Orient. Nous irons également au stade Jean Bouin, c'est à Paris, car il y a du rugby aujourd'hui. France-Italie, c'est le troisième match des Bleus dans le tournoi des Six Nations féminin. Les Françaises qui peuvent d'ailleurs encore espérer remporter un grand chelem. Et puis l'esprit sport, après ce journal, Nathalie Yanetta, ça va vrombir.
Oh Eric, cette semaine je vous emmène en Italie où le patron de Ferrari nous attend dans son fief de Maranello. On va parler passion rouge et tifosi avec Frédéric Vasseur.
À tout à l'heure Nathalie. Enfin le ciel de ce dimanche, Camille Esnault, le temps change et ça arrive par le nord-ouest.
Oui, avec un voile nuageux dense sur les côtes de la Manche et des températures qui baissent sensiblement.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Il était aux alentours de 23h en Israël, 22h à Paris. L'armée israélienne en alerte pour prévenir une attaque de drones et de missiles iraniens sur son territoire. La population israélienne invitée à se rendre aux abris. Comme cette franco-israélienne, elle s'appelle Alexandra, c'est une habitante de Ashkelon, au sud de Tel Aviv. Et d'ailleurs, elle n'a pas été surprise par cette attaque iranienne.
Ça fait depuis jeudi ou vendredi qu'on nous dit qu'il y a une réponse qui va avoir lieu dans les 24 à 48 heures, donc on s'y attendait. Et après, quand on a eu l'information de les drones sont partis, ils mettent entre 2 heures et 5 heures pour arriver en Israël, on a tout de suite, mon mari et moi, décidé de mettre les enfants en sécurité dans la pièce blindée et on a passé notre nuit là-bas. On s'attendait à une réponse. Je pensais pas à cette ampleur, mais en même temps, ça ne m'étonne pas vraiment. Je pense qu'effectivement, ils ne vont pas relancer. Après moi, par mesure de sécurité, je vais rester dans ma pièce blindée, en tout cas pour les nuits. Tant que j'ai pas une réponse claire de la vie peut vraiment reprendre, je préfère rester en sécurité. S'il y a une riposte israélienne, il n'y aura pas. Non, ce ne sera pas fini.
Voilà pour le témoignage de cette franco-israélienne recueillie par Agera Mohammad. Israël affirme que 99% des tirs iraniens ont été interceptés. Or, l'Iran rétorque que tous les objectifs ont été atteints sur le sol israélien. Propos du chef des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri.
Grâce à Dieu, l'opération a atteint ses objectifs. Nous estimons qu'elle est terminée. Nous n'avons pas l'intention de la poursuivre. Mais si le régime sioniste commet une action contre la République islamique, que ce soit sur notre sol ou contre nos bases et centres ailleurs, notamment en Syrie, notre réponse sera encore plus vaste. Nous avions la capacité de mener une opération 10 fois plus grande avec nos missiles et nos drones. Mais nous ne l'avons pas fait, nous avons seulement voulu donner une punition. Les zones résidentielles et les centres économiques n'ont pas été visés. L'armée sioniste doit comprendre que ces crimes ne restent pas impunis.
Et nous partons en Israël. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, 99% des tirs iraniens interceptés donc selon Israël. Tous les objectifs atteints, rétorque l'Iran. À écouter chacun, Thibault, c'est un peu comme si tout le monde avait gagné.
Oui, gagnant-gagnant. En effet, l'Iran avait promis une riposte et donc passé à l'action. Le pays des Mollahs s'est vengé de la mort de 7 gardiens de la Révolution. C'était le 1er avril dernier dans une annexe de son consulat à Damas. Une démonstration de force à destination d'Israël et des États-Unis bien sûr, mais aussi un message d'autorité envoyé aux puissances mandataires de Téhéran dans la région. Le Hezbollah, les Houthis du Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie et dans une moindre mesure le Hamas. L'Iran a donc frappé frappé fort, mais n'a pas pour autant pris son ennemi par surprise. Israël a donc eu le temps de se préparer en avertissant la population. Et puis l'État hébreu a coordonné avec son allié américain, mais aussi la Grande-Bretagne et des pays arabes sunnites comme la Jordanie, son dispositif de défense anti-aérien. Bilan, vous l'avez dit, 99% d'interceptions, dont la grande majorité en dehors du territoire israélien. C'est une performance inédite dans un conflit de cette ampleur et une victoire pour le gouvernement israélien qui prouve là sa capacité à rassembler ses alliés pour faire face à ses ennemis. À voir maintenant si l'escalade a atteint son pic ou si Israël envisage de répliquer. Le cabinet de guerre se réunit dans 1h30.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Bonjour Hasni Abidi.
Bonjour Eric Delvaux.
Vous êtes géopolitologue, hein, spécialiste du Proche-Orient. Vous êtes directeur du CERMAM. Le CERMAM, c'est le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. On va voir avec vous dans un instant les risques d'escalade. Je vous propose d'abord d'écouter ce reportage. C'est en Jordanie. La Jordanie qui dit avoir soutenu son voisin israélien la nuit dernière en interceptant des engins volants qui ont pénétré sur son espace aérien. Reportage donc de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
Une nuit pleine de peur et de tension a été vécue par la majorité des Jordaniens pour la première fois de leur vie, après que le ciel du royaume a été témoin de l'interception d'un groupe de missiles iraniens en route vers le territoire israélien. L'état de peur s'est accru après la chute d'un de ces missiles dans le quartier de Marj al-Hammam, au sud de la capitale Amman, qui a déclenché un état de panique, comme le décrit Ismaël, un des habitants de ce quartier.
Ça a été une nuit terrifiante, c'est la première fois qu'une chose pareille se produit en Jordanie. Les enfants ont eu peur et se sont cachés. Au bout d'un long moment, la police est arrivée pour enlever les restes du missile au sol.
Pour sa part, l'expert militaire Omar al-Rahed a estimé que ce à quoi la Jordanie a assisté était une escalade militaire qui pourrait entraîner la région entière dans une dangereuse guerre régionale.
Cette attaque iranienne a placé la région et l'Iran dans une confrontation directe avec les États-Unis et Israël et a rendu désormais très difficile tout dialogue pour une résolution de la crise sans escalade militaire.
Si on a cru un état d'urgence lancé par le gouvernement jordanien cette nuit, ce n'était qu'une rumeur propagée sur les réseaux sociaux et qui a été démentie officiellement par les autorités du royaume hachémite.
Mohamed Erami, RFI donc pour France Inter. Voilà, je vous rappelle que c'est une page spéciale du 13h consacrée aux conséquences des tirs iraniens la nuit dernière sur Israël. Et on vous retrouve, Hasni Abidi, géopolitologue, donc spécialiste du Proche-Orient, directeur du CERMAM. On l'a entendu hein, dans ce reportage en Jordanie, cette crainte d'une escalade militaire régionale ce matin, ce risque est-il réel, Hasni Abidi ?
Oui, le risque est réel, mais il est dicté plutôt par la réponse israélienne et pas par la première riposte, c'est-à-dire la riposte iranienne qui était actée. En revanche, une réponse israélienne est en mesure, en effet, donc de faire entrer la région dans une situation d'embrasement régional, dans la mesure où l'Iran ne va plus se contenter de cibler et d'informer de ces frappes, mais plutôt aussi demander à ces relais régionaux de se joindre aux Iraniens. Le deuxième élément qui risque, bien sûr, d'alimenter cette escalade, c'est bien sûr le rôle que les États-Unis va jouer. Washington va exercer certainement une pression sur Israël pour modérer ou ne pas répondre à cette riposte iranienne pour justement éviter à cette région une escalade régionalisée.
Alors je rappelle les propos il y a quelques heures du président Joe Biden qui disait qu'Israël pouvait compter sur le soutien inébranlable des États-Unis, mais les États-Unis ne veulent pas participer à une éventuelle riposte israélienne sur l'Iran. Pourquoi ?
Les États-Unis ont été avertis d'une manière officielle par le facteur, en quelque sorte l'intermédiaire qui est la Suisse, que les bases américaines, et elles sont nombreuses en Irak, en Syrie, dans le cadre, en Jordanie, dans les pays du Golfe, que les bases militaires et les intérêts américains dans la région, il faut rappeler ce qui se passe en Mer Rouge et au détroit d'Ormuz, que ce cible serait bien sûr à la portée de, à la fois de l'Iran, mais aussi de ses relais, notamment le Hezbollah, l'Iran peut tout à fait demander aux Houthis d'augmenter la cadence et d'intensifier les frappes visant les intérêts américains dans la région. Le deuxième élément, c'est que les Américains ne veulent surtout pas ce qui est finalement un autre front qui s'ouvre. Déjà, avec ce qui se passe à Gaza, c'est un énorme problème pour les pays alliés des Américains dans la région. Il n'est pas dans l'intérêt aussi de Washington donc de voir un autre front s'ouvrir avec l'Iran, parce qu'il sera un front qui est différent. On a bien vu cette frappe iranienne combinée la première fois depuis la guerre du Golfe, où on voit finalement que l'Iran n'est plus sanctuarisé, puisque je pense qu'il ne faudrait pas relativiser de cette frappe iranienne, puisqu'elle a été calculée, elle a été rationnelle, parce que les Iraniens eux-mêmes ne veulent pas une escalade qui serait aussi coûteuse pour
justement,
l'Iran.
Justement, l'affaire est close, hein, disait ce matin Téhéran. Les Iraniens n'ont pas les moyens d'une escalade militaire ?
La facture est réglée pour le régime iranien à condition que les Israéliens ne répondent pas ou mesurent leur réponse. Les Iraniens, ils ont des moyens qui sont limités, mais surtout les priorités ne sont pas dans une confrontation directe avec Israël, qui dispose à la fois d'une expertise et d'un arsenal militaire inégalé dans la région et qui dispose d'un soutien important. Vous savez, pour la première fois, nous assistons finalement à l'élargissement de l'opération de la coalition anti-Daesh qui est dans la région pour aussi prêter main forte ou à la défense israélienne. Et le dernier élément, c'est que le régime iranien est dans un processus plutôt de négociation avec les Américains sur son programme nucléaire. Il n'est pas dans son intérêt aussi donc, de voir la région subir une escalade supplémentaire.
On a le sentiment du coup que cette séquence d'hier des Iraniens était surtout destinée à la population iranienne, comme s'il s'agissait d'abord d'exacerber une fierté iranienne. Ça joue aussi là-dessus ?
Oui, il y a une pression importante à la fois de la garde révolutionnaire. Vous avez une garde révolutionnaire qui est tout de même la caution du régime iranien et qui a subi des pertes importantes. Qassem Soleimani en 2020, resté sans réponse ou une réponse timide. Et bien sûr, les officiers supérieurs et surtout le chef de cette garde révolutionnaire en charge de la Syrie et du Liban. Ça fait un peu beaucoup pour la garde révolutionnaire et pour ce président iranien pour la première fois. Nous avons un président quand même qui est radical avec le guide.
Merci.
Il fallait absolument répondre.
Merci beaucoup, Hasni Abidi. On va justement voir dans quel état d'esprit se sont réveillés les Iraniens. On voit ça avec vous, Savioche Ghazi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Téhéran pour RFI également. Malgré les quelques centaines de manifestations de joie ce matin, la population iranienne est aussi inquiète d'une possible riposte israélienne.
En fait, il y a un sentiment partagé. Certains se félicitent de cette opération qui a été menée. Il y a eu des scènes de liesse dans la nuit à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. Des Iraniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie et crier victoire. Et dans le même temps, il y avait une crainte d'une riposte importante de la part d'Israël, mais aussi surtout des États-Unis. Cette inquiétude s'est un peu limitée et réduite à cause des déclarations américaines de Joe Biden, mais aussi du chef de la diplomatie américaine, qui ont affirmé que les États-Unis ne cherchaient pas une escalade et donc ne cherchaient pas à répondre à l'Iran après l'attaque qui a été menée contre Israël. Et d'ailleurs, le signe de cet apaisement, c'est que, par exemple, la monnaie iranienne n'a pas poursuivi sa chute par rapport au dollar et à l'euro, ce qui montre qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude à propos d'une éventuelle riposte israélienne ou américaine, surtout après l'attaque qui a été menée par les forces armées iraniennes contre Israël.
Siavosh Ghazi, donc, RFI en Iran pour France Inter. Hier soir, Israël a bénéficié du soutien militaire des États-Unis, de la Jordanie, des Britanniques et de la France. Éric Biegala, quelle a été la contribution de la France ces dernières heures?
De sources militaires françaises, on reconnaît ce matin avoir participé à l'opération. On dit que la France a assuré la défense de ses bases au Moyen-Orient et déployé des moyens de surveillance et de défense aérienne sur la zone, indique-t-on prudemment. Même prudence dans les mots employés côté britannique, où l'on confirme avoir déployé des chasseurs-bombardiers et au moins un avion ravitailleur, lequel permet de ravitailler en vol les appareils, notamment américains, qui patrouillaient en l'air. Ces derniers ont eu raison d'au moins une soixantaine de drones ou missiles de croisière en les interceptant au-dessus de l'Irak, de la Jordanie Jordanie ou du Sud syrien. Les Jordaniens également sont entrés dans la danse. Cette nuit, le cabinet du gouvernement précisant ce matin que des objets volants qui étaient entrés dans l'espace aérien jordanien ont été interceptés durant la nuit, et ce pour garantir la sécurité des citoyens jordaniens.
Et Eric, si Israël a pu prévenir ces tirs de missiles et de drones iraniens, c'est aussi grâce à la capacité militaire d'Israël.
Oui, et c'est surtout son système de défense aérien antimissile qui a fait merveille. Celui-ci est effectif sur plusieurs couches. Il y a d'abord le bien connu Iron Dome, capable d'intercepter les roquettes du Hamas et du Hezbollah à courte distance. Mais il y a aussi les systèmes Arrow 2 et 3. Ce dernier système, capable d'interception exo-atmosphérique. Et c'est lui qui a parfaitement fonctionné. Les Iraniens ayant tiré pas loin de 120 missiles balistiques dont la course est partiellement exo-atmosphérique. Au moins un de ces missiles a néanmoins réussi à passer au travers des mailles du filet, touchant la grande base aérienne de Nevatim, dans le centre du pays.
Eric Biegala, de la rédaction internationale de France Inter. L'Iran, d'ailleurs, va demander des explications au pays soutien d'Israël, Téhéran, qui a décidé de convoquer les ambassadeurs britanniques, français et allemands. Réaction en France, à présent, avec Emmanuel Macron, qui condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lancée par l'Iran contre Israël. La France, qui travaille d'ailleurs, dit le président, à la désescalade. Condamnation également au Parti socialiste, par la voix du premier secrétaire, Olivier Faure.
Pour la première fois, on a une attaque directe que je condamne évidemment très fermement. Et nous sommes là face à une escalade qui est potentiellement dramatique. J'appelle à la retenue, à la désescalade, au fait que Israël ne se lance pas à son tour dans une riposte qui serait une riposte qui pourrait nous emmener dans une régionalisation du conflit que nous cherchons à éviter depuis le début. À chaque fois qu'Israël sera attaqué, nous serons à ses côtés. Nous étions aux côtés d'Israël le 7 octobre et il n'y avait aucun doute dans la condamnation que nous avons énoncée face au groupe terroriste du Hamas. C'est une évidence. Et nous avons, dès cette période-là aussi, appelé à la retenue de la part d'Israël pour éviter une punition collective qui aujourd'hui se solde par une tragédie sur le peuple palestinien. Et donc oui, effectivement, il faut garder cette capacité à dire le droit international partout et un seul poids, une seule mesure.
Olivier Faure avec Karine Bécard il y a quelques minutes sur France Inter. La France insoumise également condamne cette attaque lancée par l'Iran contre Israël. Les insoumis fustigent une riposte synonyme d'escalade militaire. Chez les LR encore, la tête de liste aux européennes, François-Xavier Bellamy, apporte son soutien à Israël face à ce qu'il appelle la menace de l'Iran prêt à aller plus loin. J'ajoute que le pape François exhorte les deux pays, Iran et Israël, à ne pas entrer dans cette spirale de la violence. Sachez encore que le G7 va se réunir en début d'après-midi, dans les prochaines minutes donc, pour éviter, disent-ils, une escalade militaire après l'attaque iranienne. Je rappelle que le G7 est présidé en ce moment par l'Italie. Réunion également prévue du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Je précise enfin qu'à Paris, le Quai d'Orsay recommande aux Français résidant en Iran de quitter temporairement ce pays, l'Iran. Voilà donc pour cette page spéciale du Trésor consacrée à l'attaque iranienne d'hier soir, directement donc sur le sol israélien. Il est 13h18.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
L'actualité de ce dimanche est aussi l'optimisme du gouverneur de la Banque de France. Nous sommes en train de gagner la bataille contre l'inflation, dit François Villeroy de Galhau. Il estime d'ailleurs que la croissance sera bien au rendez-vous dès cette année 2024, mais il faudra d'abord, dit-il, stabiliser nos dépenses. L'actualité sportive, nous partons au stade Jean Bouin à Paris. Rugby donc, avec le tournoi des 6 nations version féminine. France-Italie dans quelques minutes. Troisième rencontre du 15 de France féminin dans ce tournoi. Fanny Lechevestrier, vous êtes au stade Jean Bouin, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les Bleus sont pour l'instant deuxième au classement et tout leur est ouvert.
Oui, puisqu'on pense bien sûr déjà à cette finale face aux Anglaises à Bordeaux fin avril. Et normalement, les Bleus doivent encore l'emporter face aux Italiennes cet après-midi. Elles sont en tout cas favorites et ainsi enchaînées avec une troisième victoire d'affilée dans un stade Jean Bouin, Eric, qui leur rappelle de bons souvenirs en plus. C'est ici, il y a 10 ans, qu'avaient eu lieu les phases finales de la Coupe du Monde féminine organisée en France, là où les Bleus s'étaient fait connaître au grand public en allant chercher une troisième place. cela avait largement contribué au développement du rugby féminin en France. 10 ans plus tard, il s'agit donc d'inscrire cette progression dans le marbre en allant chercher une belle victoire face aux Italiennes devant un stade Jean-Bouin qui se remplit. 13 000 personnes sont attendues cet après-midi.
Ce stade Jean-Bouin qui va donc porter chance aux Bleus, si je vous crois, Fanny Lechevestrier, merci. Le sport aujourd'hui, c'est aussi le tennis. La finale du tournoi de Monte-Carlo entre le Suédois Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. Les deux joueurs n'étaient pourtant pas favoris pour le gain de ce Masters 1000. Début du match à 15h. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Camille Esnault.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le ciel va encore s'éclaircir cet après-midi?
Oui, la bande nuageuse continue de s'effriter, sauf sur une petite moitié nord et sur les côtes de la Manche où le voile va rester dense. La côte aquitaine aura aussi du mal à se défaire de la grisaille. Les températures, elles, restent bien au-dessus des normales en région PACA et sur le sud-ouest, où on atteindra de nouveau cet après-midi les 30 degrés. Du centre au nord-est, il fera 22 à 26 degrés, alors que sur le nord-ouest, ça baisse avec 15 au Havre et à Cherbourg, 17 à Évreux et Brest, 18 à Rennes ou encore 21 au Mans.
Et la pluie devrait arriver en fin de journée.
Quelques ondées qui arriveront par la Manche et s'installeront pour la nuit. L'instabilité va gagner également en cours de nuit la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand Est, avec des orages qui pourront éclater. Ce front pluvieux gagnera demain tout le pays, excepté le pourtour méditerranéen, où le vent va souffler fort. Et dès lundi, une baisse des températures s'amorce avec un retour au normal de saison.
Camille Esnault.